Zio che amava far da sé, faceva bombe atomiche da dilettante e senza aver studiato mai raggiunse più di un risultato rilevante. Passava tutto il giorno chiuso nel laboratorio a fare esperimenti, la sera ci chiamava a sé e a noi tutti contenti raccontava che se per fare la bomba non c'è difficoltà se non elementare, ed anche col detonatore basta un poche ore a farlo funzionare. Invece con la bomba H c'è un problema pratico che mi tormenta, che quella di mia produzione c'ha un raggio d'azione di 3,30 metri, è un difetto cui però presto io rimedierò. Ed ha passato lunghe ore a rimediare l'errore nella sua officina, pranzando insieme a noi sbobbava in un sol colpo la sua zuppa di gallina. Da come è diventato rosso si capì che un osso gli era andato storto, accadde proprio un martedì che lo zio mezzo morto ci gridò così: più io divento vecchio più mi accorgo che il cervello scema ad ogni mese, per dir le cose come stanno non è più un cervello ma una maionese. Per anni cerco d'aumentare la portata della bomba mia diletta, non mi son reso conto che quello che conta è solo dove la si getta. Se qualcosa ancora non va presto si rimedierà. I gran capi di Stato per vedere la bomba gli hanno chiesto udienza in fretta, lo zio li ha ricevuti tutti e ha chiesto scusa se la camera era stretta, ma quando sono entrati lui li ha chiusi dentro, poi gli ha detto state buoni, la bomba esplose e così fu che di sti capoccioni non ce n'eran più. Lo zio davanti al risultato non perse la testa e fece il finto tonto, lo misero davanti al giudice perché dell'atto lui rendesse conto. Signori, è stata una sciagura ma non ho paura a dirvi chi e tondo che distruggendo sti bastardi, anche se un po' tardi, ho salvato il mondo. Si fu incerti per un po' e lo si condannò e poi lo si graziò, e il paese che gradì lo fece capo del governo lì per lì.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, nous recevons des personnes qui vont nous parler à la fois de la jeunesse, à la fois de l'éducation, à la fois du service national universel. Il s'agit de Rodrigo Arenas. Bonjour Rodrigo Arenas.
Bonjour.
Et il s'agit de Nathalie Laville.
Bonjour.
Bonjour Nathalie Laville. Alors, vous êtes venue, vous avez affronté la pluie pour arriver jusqu'au studio de Radio Libertaire. Est-ce que vous étiez déjà venue à Radio Libertaire, Rodrigo Arenas?
Moi, j'avais connu Radio Libertaire d'abord quand j'étais lycéen, mais j'écoutais. Et ensuite, j'avais eu l'occasion de visiter un peu les locaux, mais ce n'était pas ici. Puisque
c'était à Montmartre.
Non, c'était à Montreuil. Il y avait,
à Montreuil aussi.
Il y avait Montreuil de mémoire. Hein. Mm-hmm. C'est d'ailleurs parce qu'il y avait pas mal d'émissions, notamment sur les prisonniers politiques, etc. Et comme je suis d'origine chilienne, c'est un sujet qui est important dans mon histoire et dans ma culture aussi, culture politique, sociale, culturelle. Et j'ai été beaucoup sensibilisé du coup à ces années-là, notamment à ce qui était considéré par certains de nos concitoyens comme des prisonniers politiques. Je pense notamment aux Basques, aux Corses et autres, qui trouvaient refuge dans cette radio, puisque pour pas être plus long, c'était des émissions qui étaient mises notamment en direction des Basques parce que les gens étant en prison,
oui,
pour les raisons qu'on connaît, ça leur permettait d'avoir un lien avec leur famille puisqu'elles pouvaient passer des coups de fil, parler et aussi passer des musiques pour les gens qui étaient en prison. Donc je trouvais que c'était une démarche qui m'interpellait parce qu'on la retrouve beaucoup en Amérique du Sud aussi. La radio a ce pouvoir de connecter les gens. Voilà.
Alors il y a toujours une émission pour les Basques à Radio, ouais, Libertaire. Hein. Donc on pourra.
Parce que c'est pas fini l'histoire.
Parce que c'est jamais fini.
Exactement.
C'est jamais fini. Alors bon, Rodrigo Arenas, est-ce qu'on a le droit de dire que tu es député? Non, je vais quand même vous voyez que vous êtes député NUPES de la 10e circonscription de Paris, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a bien sûr à l'Assemblée nationale des collaborateurs.
Oui.
J'avais noté Julien Delouen, que,
oui,
bon, on connaît bien parce que lui, il était déjà très engagé lorsqu'il était lycéen.
Oui.
Il était engagé dans l'Union nationale lycéenne, d'ailleurs. Et puis, je lis d'autres noms, hein, mais peut-être que vous allez pouvoir me les dire mieux. Benjamin Sbrillio.
Oui.
qui fait partie. Alors, lui, il vient de. C'est aussi. C'est pas un historien, je crois, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'historiens.
En fait. Pas mal d'historiens, parce que je pense que c'est important d'avoir la mémoire et de savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Alors tout ça, c'est un peu, on dirait un peu une blague carambar, mais je pense que c'est sérieux. On vient de là. Et Benjamin, il a cette caractéristique, c'est que il a fait partie de trois personnes en fait qui avaient porté plainte à l'époque pour interdire la candidature de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi ? Parce que il considérait que ce qu'il portait était contraire au traité, à la loi française, puisque ce qu'il prenait était contraire en fait à l'esprit de la République. Et donc on s'est connus un peu comme ça, on a échangé beaucoup sur ces sujets-là, et donc on a des points communs, notamment sur la question de la lutte contre l'extrême droite, pas seulement sur le papier, mais aussi de façon engagée, parce que c'est un peu toute sa vie, c'est un peu toute la mienne aussi, puisque c'est aussi mon histoire. Moi, je suis arrivé en France suite au coup d'État de Pinochet au Chili, qui est l'extrême droite.
Vous êtes né, Rodrigo Arenas, dans la belle ville de Valparaiso.
Valparaiso, ouais.
De Valparaiso.
C'est
ça. En 1974.
C'est ça.
Donc, vous êtes arrivé en France, vous aviez 4 ans, d'après ce que j'ai lu, et votre papa était très engagé.
Ouais, mon papa était engagé. C'est d'ailleurs ma mère aussi. Parce que c'est le truc de l'exil aussi. Ça, on parle beaucoup des papas, mais jamais des mamans. Et souvent, en fait, les femmes étaient plus engagées que les hommes. Mais c'est toujours à eux qu'on donne l'avantage. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants où ma mère était aussi engagée que mon père. Et pour autant, dans une société latino-américaine qui était patriarcale, en fait, c'était souvent les papas qui étaient mis en avant, alors que ma mère allait aux mêmes réunions que lui et qu'elle rentrait aussi tard que lui. Et d'ailleurs, souvent, il m'entraînait en réunion. Et je pense que je leur dois beaucoup sur la culture politique. Je leur dois beaucoup aussi sur la notion de l'engagement. Et je leur dois beaucoup aussi sur le fait que quand on s'engage sur une cause, quelle qu'elle soit, ça, c'est du temps qu'on vole à sa famille. Et maintenant, en tant que père de famille, j'ai 4 gamins, je suis aussi dans cette transmission-là. C'est-à-dire que c'est vrai que, surtout maintenant que je suis député, je passe beaucoup de temps à l'Assemblée, je vois peu mes enfants, mais ça fait aussi partie de l'éducation, de savoir qu'ils ont un papa qui est comme ça. Et je pense que cette culpabilité que j'entends des fois de dire « Ouais, tes gamins, tu les vois pas, ou ils te voient pas, donc ils vont te le reprocher », je pense pas. Moi, je reprocherai à mes parents. Je pense que ce que je suis, je leur dois. Et j'espère que je transmettrai peut-être cette petite flamme de s'engager pour ce qu'ils croient. Peut-être qu'ils s'engageront sur des choses qui sont aux antipodes de ce que moi je défends, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On verra ce qu'ils feront quand ils seront plus grands. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'éducation et je tiens à leur transmettre ce que moi-même j'ai reçu en héritage.
Alors, Rodrigo Arenas, on va continuer après sur votre itinéraire un peu d'engagement. Mais je voudrais dire aussi que nous avons dans le studio Nathalie Laville.
Oui.
Alors, Nathalie Laville, elle a écrit un livre avec vous, j'ai vu, et avec Édouard Godot, qui s'appelle « Dessine-moi un avenir ». Alors, Nathalie Laville, vous êtes parmi les collaborateurs et collaboratrices de Rodrigo Arenas. Comment vous êtes retrouvée là?
Alors, nous, on s'est retrouvés d'abord chez les écologistes. Mm-hmm. C'est là qu'on s'est croisés, tous. Un petit peu, la plupart de ceux qui sont dans ce cabinet sont passés par les écologistes. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, et en particulier sur les questions de l'école. Même si moi, ce n'était pas ma spécialité, mais j'ai fait une petite parenthèse dans ma vie professionnelle où j'étais enseignante. Donc, j'avais un petit regard sur le... un petit regard sur l'éducation. Donc voilà, et c'est un petit peu... C'est pas par hasard, en fait, qu'on travaille tous ensemble. C'est parce que ça fait de nombreuses années qu'on se bat pour faire émerger nos idées, et du coup, c'est la suite logique, c'était qu'on se retrouve dans ce cabinet pour travailler tous ensemble.
Alors, Nathalie Laville, on a parlé du papa de Julien... de Rodrigo Arenas. On pourrait aussi parler du papa de Julien, mais enfin, je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais le vôtre est aussi connu. Il était dessinateur, qu'est-ce qu'il faisait, votre père ?
C'était un dessinateur de presse, qui a été instituteur, d'ailleurs, qui a commencé, lui, sa carrière professionnelle en étant instituteur, qu'il a interrompu en faisant la guerre d'Algérie. Et donc, quand il est rentré, il a... plus voulu enseigner, et donc il s'est lancé.
Il a été touché par la guerre d'Algérie.
Très. C'est-à-dire que lui, c'était un vrai, je sais pas comment on peut le qualifier, mon père c'était quelqu'un de gauche, quelqu'un qui avait pas une réflexion très poussée en politique, mais qui était de gauche, point final. Ça se discutait pas, hein. Et écologiste d'ailleurs. Hein. Et donc la guerre d'Algérie pour lui c'était une vraie souffrance parce qu'il voulait pas y aller, hein, parce qu'il voulait pas se battre. Et dès qu'on parlait de la guerre d'Algérie, il refusait pas d'en parler, lui. Il en parlait, mais il pleurait. À chaque fois qu'on en parlait, il pleurait. Et il disait, j'ai dû tirer sur des gens. J'ai dû tuer des gens, sûrement. Parce que c'était ou eux, ou moi. Et je me souviens qu'il racontait, par exemple, que la nuit, il était dans les Aurès, et que la nuit, il leur rattachait les clés des armes au poignet. Ce qui veut dire que si des Algériens rentraient dans le fort et voulaient prendre les armes, ben, fallait les tuer pour leur prendre la clé. Hein. Je me souviens qu'il a raconté ça, oui, il était très touché, très... C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, il y avait cette découverte d'un pays, hein, qu'il avait beaucoup aimé, il racontait bien les Aurès, et puis cette horreur de la guerre.
Alors Nathalie Laville, on va reparler donc du livre que vous avez écrit avec Rodrigo Arenas et Édouard Godeau, qui lui est historien. Édouard Godeau... Rodrigo Arenas.
Alors, il est historien, il a été prof aussi d'histoire. On a des débats évidemment passionnés. Notamment, il s'est pas mal impliqué, notamment sur les questions des pays de l'Est, puisqu'il a accompagné un personnage assez illustre de lutte contre toutes les oppressions, en l'occurrence de l'autre côté du mur de Berlin, de l'époque. Et donc, on a aussi ce lien, parce que moi, j'ai été au Parti communiste, hein, donc il y a beaucoup de choses qu'on travaillait intellectuellement et qui n'était pas acceptable en fait, même avant la chute du mur en fait, pour être clair, qui fait que tous ces débats passionnés qu'on a eu, comme le disait Nathalie quand on était chez les écolos, ça nous a beaucoup soudés. Ça nous a beaucoup soudés sur cette notion un peu libertaire en fait de l'approche de la politique, chacun par des chemins différents. Nathalie l'explique à travers son papa, mais elle le dira elle-même. Édouard aussi est là-dessus sur ce courant, mais plus une approche plus européenne, j'ai envie de te dire. Et pour ce qui me concerne, en fait, moi je fais partie d'une culture politique. On a reçu le Winnipeg, on a reçu toutes ces anarchistes espagnols à Valparaiso, puisque c'est un port, pour ceux qui ne savent pas, et qui a emmené en fait dans ses bagages tout le marxisme, toutes ces idées révolutionnaires, mais avec un aspect très libertaire. En fait, des choses. Et donc, oui, ces notions d'une révolution qui serait autoritaire, dans laquelle on doit respecter une hiérarchie à tout prix parce que c'est le camarade chef, tout ça, moi, ça m'a jamais parlé, en fait. Et donc, ça nous a réunis. Ça nous a réunis sur comment est-ce qu'on réussit à inventer, à travers l'école, à travers l'éducation, un monde différent, un monde meilleur, mais qui ne soit pas soumis à quelconque autorité, qu'elle ce soit, parce que la seule autorité qu'on peut respecter, c'est comme on le dit dans le livre, c'est les bergers de l'être. C'est ceux qui nous apprennent à devenir, c'est ceux qui nous guident à être ce que l'on souhaite, et ce que l'on souhaite ne doit pas se faire en opprimant quelqu'un d'autre ou en exerçant une quelconque autorité tutélaire de par une fonction, et qu'on croit à la raison, on croit à l'intelligence, à l'intelligence de soi, à l'intelligence des autres. On croit à tout ça, non pas comme une croyance religieuse, mais comme un chemin, comme une émancipation, comme un affranchissement. Et c'est ça qui nous réunit aujourd'hui à l'Assemblée, qu'on travaille ensemble à travers tout ce qu'on essaye de porter, difficilement, parce qu'on ne peut pas faire abstraction aussi qu'on est dans un monde qui a accepté Emmanuel Macron.
Alors Rodrigo Arenas, avant de rentrer à l'Assemblée, avant de vous présenter, disons, comme député, vous aviez des responsabilités dans la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, une association de parents d'élèves. Alors, celle de gauche, hein, parce qu'il y en a une de droite et une de gauche, on ne se confond pas, nous. Et puis, comment vous êtes engagé? Parce que là, vous avez pris des positions qui ont été remarquées quand vous étiez déjà là-bas.
Alors, ce n'était pas que mes positions, parce qu'on a... Là, encore une fois, on a cette idée qu'une organisation de 300 000 adhérents, c'est quelque chose de monolithique, avec un chef qui dit « non, ça ne se passe pas comme ça ». D'ailleurs, à la FCPE, il y avait des adhérents de tous bords politiques, même des personnes laïques qui, pour autant, étaient croyantes. Donc, ça ne se pose pas comme ça. La question, c'est que j'ai peut-être eu une petite responsabilité en tant que coprésident. D'ailleurs, j'ai imposé une coprésidence en accord avec la personne avec qui je l'ai fait, qui s'appelle Carla Dugo, c'est-à-dire d'imposer la parité homme-femme. qui n'est pas statutaire, mais on l'a imposé parce qu'on pensait que c'était le moment dans lequel on ne pouvait pas faire comme si cette question centrale ne s'invite pas dans une fédération qui prône l'égalité femmes-hommes jusqu'à dans ses représentations. Voilà, ça c'était un sujet.
Alors votre maman aurait été contente là.
Bah, en tout cas, je sais que je lui dois ça. Je lui dois ça parce que oui, dans une société, une culture latino-américaine extrêmement machiste, patriarcale, domination masculine à fond la caisse, oui, c'est pas facile de s'en affranchir. Moi, j'explique ça assez aisément, je le dis à mes enfants d'ailleurs. J'ai été profondément bousculé quand
excusez-moi, c'est peut-être ouais. Intime, mais vos non, enfants sont des garçons, sont des filles?
J'ai que des garçons. Ah, j'ai que des garçons.
Il faut leur expliquer.
Ben ouais, faut déconstruire. Faut déconstruire, parce que même l'école leur apprend des fois des trucs où les garçons ont une place plus importante que celle des filles, dans les cours d'école, etc. Bon, tout ça, maintenant, ça paraît assez entendu, parce que les magazines s'en emparent, etc. Mais c'est aussi un parcours personnel en tant qu'adulte, maintenant, qui doit transmettre un certain nombre de valeurs à ces gamins, qu'ils ont le droit d'ailleurs de contester. Ils ont le droit de devenir des profonds hétérobeaufs. Voilà, c'est pas le problème, ça sera leur chemin. Moi, je suis pas là-dessus, mais ils peuvent aussi avoir ce chemin-là, eux, ça leur appartiendra. Mais en tout cas, moi, mon chemin, c'est quand je suis au Chili et que ma grand-mère et ma tante m'expliquent qu'il faut que je sorte de la cuisine parce que c'est pas la place d'un homme. Donc voilà, tout ça fait que on doit s'affranchir de ça. Donc j'essaye de porter ça en tant que parent d'élève dans une organisation. J'essaye de convaincre. Il y a des choses où j'ai convaincu, d'autres où j'ai échoué. Mais c'est toujours une décision collective. D'ailleurs, toutes ces choses-là, moi, je les ai fait voter. Je les ai fait voter par un collectif parce que je pense pas, en tout cas, j'espère ne pas avoir porté un truc de culte, du chef. Je fonctionne pas comme ça. Alors, après, c'est vrai que j'ai un caractère, j'ai une personnalité qui fait que j'arrive à convaincre souvent, parfois, mais des fois, on se plante et c'est arrivé. C'est arrivé que je me plante. Mais en tout cas, on a essayé les uns les autres de contrairement à ce qu'on a pu entendre, notamment chez les macronistes, la FCPE, c'est pas une tête, c'est un collectif. Après, il y a des gens qui ont des responsabilités et en l'occurrence, j'assumais la mienne.
Alors justement, vous étiez encore coprésident de la FCPE, oui. Rodrigo Arenas, lorsque il y a eu le Covid.
Oui.
Et alors, comment ça s'est vécu, ça ? Quelle position avaient les parents, là ? Parce que quand on a redemandé aux enfants de rentrer dans des écoles où il n'y avait même pas de sanitaire correct, etc. Bon, je crois que vous avez même dénoncé ça. Hein, bon, comment ça se vit, ça, avec les parents, cette histoire du Covid ? Ça a marqué. D'ailleurs, on va en reparler après dans « Dessine-moi un avenir hein, ». On en parle beaucoup dans le livre aussi. Et alors, ça se passe comment, ça, le Covid ?
Ben, l'école sous Covid, en fait... Il y a plein de sujets. Il y a ceux qui sont, j'ai envie de dire, mainstream, dans lesquels on voit les gamins qui n'ont plus de profs, qui ont plus cours, les inégalités qui se creusent avec ceux qui maîtrisent plus ou moins l'outil numérique pour avoir accès aux cours, etc. C'est aussi les inégalités qui sont liées aussi par rapport aux revenus des parents. Ceux qui ont la possibilité d'acheter des cours en ligne ou des cours particuliers pour les gamins et ceux qui n'ont pas l'occasion de le faire. Les gamins qui, dans les territoires, peuvent retourner à l'école et d'autres pas. Les discriminations aussi, même si, en l'occurrence, elles sont parfaitement compréhensibles avec les gamins des parents soignants qui sont les premières lignes, en fait, qui vont sur le front sanitaire et les gamins qui peuvent aller à l'école et pas les autres. Vous voyez, tout ça, c'est ce que tout le monde a vu et qui a beaucoup ému. Après, il y a d'autres sujets qui sont, à mon sens, pas plus importants, mais autant importants que je pense qu'on a assisté à l'effondrement de l'école. On a assisté à l'effondrement d'un système scolaire, c'est-à-dire son incapacité à être résilient, à pouvoir s'organiser autrement que de la façon dont il fonctionne traditionnellement. Moi, je me souviens, il y a des moments où on disait, bah, écoutez, on ne peut pas faire l'école dans l'école, dans les murs, mais faites l'école à l'extérieur. Pourquoi c'est pas possible? On peut pas manger, mais prenez les gymnases. Enfin, il y avait des possibilités de faire, mais on a bien vu que du plus haut sommet de l'État, qui avait toujours un train de retard, et jusqu'à la base, y compris chez les parents, eh ben, il y avait cette incapacité à imaginer l'école autrement, à pouvoir s'adapter à une situation qui est profondément bousculée, et donc cette incapacité de notre culture, en fait, notre culture éducative, notre culture aussi idéologique par rapport à ce qu'il y a, à un choc extérieur à l'école qui impacte toute la société, eh ben, on a l'incapacité de faire autrement et de s'adapter. Ça, c'est un sujet qui était hyper important, et d'autant plus dans un monde dans lequel les chocs extérieurs sont centraux. Aujourd'hui, à mon sens, on vit trois révolutions immenses d'un point de vue culturel. D'abord, la question de l'écologie. Aujourd'hui, l'école n'est pas prête et ne sait pas affronter les questions écologiques. On n'enseigne pas l'écologie à l'école. Alors ouais, on fait des ateliers, on fait des sensibilisations, mais ça repose fondamentalement sur les enseignants qui sont déjà sensibilisés à ça, qui ont déjà des réflexions par rapport à tout ça et qui veulent amener les enfants à. Mais ça fait pas partie d'un programme scolaire au-delà de fête des potagers, quoi. Voilà, on a eu les éco-délégués de Blanquer. Ok, il y a des éco-délégués. Enfin, au moment où les gamins étaient en train de se mobiliser, ils faisaient les grèves tous les vendredis avec Greta Thunberg, qui faisait des manifs, qui se mobilisaient, lui dit, ils font des éco-délégués. Enfin, la question, c'est pas ça. C'est la question, c'est comment est-ce qu'on fait une école qui permette aux enfants d'avoir les outils pour affronter la situation dans laquelle on est. Et ça, l'école n'est pas en mesure de faire ça. Et toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Elle n'est pas en mesure de le faire. Ensuite, il y a la question du numérique. La question du numérique est centrale aujourd'hui. Elle s'est invitée dans tous les foyers, entre toutes les mains. Là, moi, je regardais une pub là, pour SFR, enfin, pardon de parler d'eux, mais qui met en scène des jeunes ou des gamins en disant le monde des SFR, c'est trop bien. En gros, prenez téléphone portable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de mettre des enfants en danger. Parce qu'on sait, il y a des études là-dessus qui montrent que l'utilisation d'un téléphone portable ou d'une tablette a des impacts, y compris en termes de santé publique sur les jeunes publics, qui sont contraires à leur développement, qui sont contraires à leur intérêt. Donc, vous voyez, tout ça, l'école aujourd'hui n'est pas capable d'affronter ça. Donc, c'est ça qui est compliqué. On rend les enfants utilisateurs d'une technologie, mais sans en avoir la maîtrise. Et enfin, le dernier truc, c'est la question des discriminations. L'école aujourd'hui ne permet pas de lutter contre les discriminations de façon systémique. Alors oui, il y a des dispositifs qui existent à droite, à gauche. Si par exemple, on prend l'école élitiste, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est autre chose, mais c'est central. On pourra en reparler tout à l'heure si tu le veux, mais aujourd'hui, par exemple, il y a des conventions pour que les gamins des REP+, ils aillent à Sciences Po. Donc on sait faire des dispositifs. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a des gamins de banlieue, parce que c'est de ça dont on parle, des gamins de pauvres qui doivent aller à Sciences Po. C'est... Est-ce que la question d'une école qui produit une élite, l'espoir de tous les parents et l'objectif de l'école, c'est d'aller à Sciences Po, à l'ENA, etc., ou est-ce que l'école doit permettre de donner des outils aux gamins pour se construire eux-mêmes ? Tu vois, c'est tout ça qui est confronté. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que pendant le Covid, en fait, tout ça, ça s'est effondré. Ça s'est effondré et l'école n'a pas été en mesure d'apporter une réponse systémique à ce choc-là.
Alors, Rodrigo Arenas, bravo, je crois que vous allez réussir à les convaincre à l'Assemblée nationale. Maintenant que vous êtes chargé de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Bon, on va faire... Moi, je suis un membre parmi d'autres.
Hein, va faire une petite pause musicale avec certainement une chanson que vous connaissez bien. J'annonce pas, c'est pas la peine, vous allez la reconnaître. Elle est une chanson qu'on connaît bien et que Pedro va nous envoyer.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Rodrigo Arenas et de Nathalie Laville. Alors, nous avons parlé, bien sûr, de la jeunesse, de l'éducation. Et il y a un livre que vous avez écrit ensemble, Rodrigo Arenas et Nathalie Laville, qui s'appelle « Dessine-moi un avenir ». Alors, je lis le sous-titre « Plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école ». Alors, c'est un livre qui a été publié en 2020, c'est-à-dire que déjà, il y avait eu ce fameux Covid dont vous nous avez parlé, Rodrigo Arenas, auparavant. Et là, j'ai relevé une phrase. Pourquoi aller à l'école si on n'y apprend pas à sauver le futur ? Alors ça, c'est, il faut nous expliquer tout ça. Pourquoi aller à l'école si on n'y apprend pas à sauver le futur ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je vais d'abord poser la question peut-être à Nathalie Laville, puisque vous avez été co-auteur, autrice, de ce livre « Dessine-moi un avenir ».
Bah, c'est-à-dire que nous trois, on est persuadé que le monde à venir est un monde compliqué et que aujourd'hui ce qu'on apprend à l'école, ça peut pas être coupé de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que les enseignements d'aujourd'hui, compte tenu de la réalité qui est ce qu'elle est, ne peuvent pas être les mêmes qu'il y a 50 ans, 100 ans ou 20 ans, hein. C'est forcément différent. Parce que l'école, elle prépare théoriquement à devenir un citoyen actif dans la société. Et donc, pour qu'on soit le mieux armé possible, il nous semble qu'effectivement, l'école doit préparer ses enfants à affronter, pour nous en tout cas, ce qui nous paraît être un monde compliqué. Et c'est forcément avec des apprentissages un peu différents. Enfin, un peu ou beaucoup.
Beaucoup différents, je crois.
Voilà. C'est-à-dire que voilà, nous, il nous semble que en réalité, c'est toute la façon même d'éduquer qui doit être transformée. C'est-à-dire que c'est ce qu'on se dit souvent, c'est-à-dire que on doit apprendre à être davantage autonome, on doit apprendre à avoir un rapport à la terre, à savoir comment on cultive, par exemple. C'est vrai que moi, par exemple, des gens de ma génération, on était absolument coupés de ça à l'école. Alors cela dit, on pouvait être plus proche du monde rural par ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, les enfants sont totalement, en ville, hein, sont complètement coupés du monde rural. Et il n'y a pas d'apprentissage particulier pour leur apprendre à reconnaître des légumes, des fruits, à comment on les fait pousser, etc. À reconnaître ce qu'est la biodiversité, même si ça avance un petit peu. Mais ça nous semble insuffisant. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que demain... même si on n'est pas trop pessimiste et même si on n'a pas un monde complètement effondré, en tout cas, on aura un monde différent et difficile. Et il faut que les enfants soient en capacité de pouvoir s'adapter.
Alors, Nathalie Laville, vous m'avez dit que vous avez enseigné oui. quelques années, donc vous parlez en connaissance de cause, bien sûr. Et puis, là, vous parlez aussi de l'école publique, je suppose.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai enseigné pas très longtemps. J'ai enseigné pendant 3 ans et dans des lycées professionnels, justement, où j'enseignais l'histoire. Alors, c'était pas très facile parce que j'étais, par exemple, dans un établissement du BTP. Et donc, c'était compliqué d'enseigner parce qu'on était dans une transmission très normée, très académique. En fait, et qui n'était pas adapté à ces enfants. Hein. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas avoir accès à certaines connaissances. Hein. Mais c'est vrai que c'était des disciplines accessoires, hein, avec des enfants en échec, pour la plupart, hein, en échec scolaire, à qui on apprenait un métier dont, pour la plupart, en fait, ils n'avaient pas très envie de devenir couvreur, hein, par exemple. Hein. C'est des métiers en plus difficiles, manuels. Et c'est vrai que nous... Enfin, voilà, moi, j'ai une expérience un peu particulière qui ne m'a pas donné envie, de continuer à enseigner, parce que c'était...
Vous avez quitté, Nathalie Laville, vous avez quitté volontairement l'enseignement.
Oui,
pour une autre profession.
Moi, j'étais journaliste.
Voilà. Ben, moi, j'ai été trois mois.
J'ai tenu 3 ans, moi.
Et vous avez quand même tenu 3 ans. Ben, c'est bien. Félicitations. Parce que, c'est vrai qu'à l'école, on s'est rendu compte de la difficulté. Moi, j'ai toute ma famille dans l'enseignement. Alors, et puis, encore aujourd'hui, donc, je suis un peu ce qui se passe dans l'enseignement. Et quand j'ai lu, justement, le livre « Dessine-moi un avenir », donc, écrit par Rodrigo Arenas... Édouard Godot et Nathalie Laville, que nous venons d'entendre. Bon, j'ai lu aussi avec intérêt la préface de Philippe Mérieux.
Ouais.
Alors, vous avez fait appel à Philippe Mérieux pour la préface, ce qui est très bien. Et il écrit justement dans sa préface « Tout s'est passé ». Alors, il parle du Covid, puisque c'est en 2020 que le livre a été écrit. « Tout s'est passé comme si le seul idéal éducatif à l'horizon était que les élèves reprennent le chemin de l'école ». Exactement comme avant, et pour y faire exactement ce qu'il faisait avant. Mmh. Et alors là, Philippe Mérieux cite de grands moments dans le changement de l'éducation. Alors bien sûr, Jules Ferry, bon, tout le monde connaît. 1936, Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation au moment du Front Populaire. En 1944, donc, Langevin Wallon du Conseil de la Résistance. Il cite aussi Lionel Jospin. Mais alors, ce qui m'a étonné, si vous voulez, c'est que Monsieur Philippe Mérieux a oublié mai 68. Alors, mai 68, il y a quand même, il s'est passé des choses. C'est pas parce que j'étais aussi avec les étudiants et les enseignants. Et notre ami Hugues Lenoir, historien, qui s'intéresse beaucoup à l'éducation, qui a écrit aussi plusieurs livres sur l'éducation, et notamment un précis d'éducation libertaire, où il cite Victor Considérant, Charles Fourier, on pourrait aussi citer Paul Robin, de l'Orphelinat sans puits, mais là on est au XIXe siècle, Laruche, de Sébastien Faure, on peut en citer d'autres. On peut aussi citer, alors justement, puisque nous avions auparavant les élèves du lycée autogéré, Jérôme Savary, quand même, qui est paraissé longtemps, le pauvre, comme ministre de l'Éducation nationale, Jérôme Savary. Donc, et lui, il a écrit, il disait, mai 68, ça a été une révolution pédagogique. Alors, est-ce que mai 68 mérite d'être cité parmi les moments où il s'est passé des choses dans l'éducation. Rodrigo Arenas.
Ce qui est sûr, c'est que 68, ce qu'on appelle mais 68, qui est une révolution culturelle, mérite d'avoir une attention au niveau de l'école, différente que ce qui est mainstream. Parce que j'emploie souvent ce mot-là, c'est-à-dire ce que tout le monde accepte comme acceptable. Voilà. Je pense qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la question d'égalité femmes-hommes, 68 apporte quelque chose de profondément différent par rapport à la société.
Même si en 68, les femmes n'ont pas été très bien traitées. Elles se sont révoltées après.
Alors, elles ont peut-être d'ailleurs été maltraitées parce que précisément, elles portaient dans leur combat et dans leur lutte les germes du monde qui venait. Et peut-être qu'elles étaient précurseurs. Je pense que les femmes sont précurseurs, d'une façon générale, d'un point de vue systémique. Je pense que beaucoup des révolutions culturelles viennent des femmes et non pas des hommes, parce que je pense et je considère que ce sont elles qui souffrent davantage des oppressions, surtout dans une société qui est faite par et pour les hommes.
C'est ce qu'on voit actuellement d'ailleurs en Iran.
On le voit en Iran, on le voit en fait sur toute la planète. C'est-à-dire que si on considère qu'on a le droit de s'essuyer les pieds sur les femmes ou les discriminer ou les dominer, bah, il n'y a aucune raison de leur donner une place. Et elles ont conquis cette place de haute lutte et souvent de haut sacrifice. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut castrer les hommes, parce qu'on a aussi une place là-dedans. Je pense qu'à certains hommes, et j'espère en être, en tout cas j'y milite pour ça, on fait aussi partie du changement. Mais pour autant, je ne veux pas être un escroc. C'est-à-dire, quand je suis un escroc, c'est que moi, j'ai jamais souffert une discrimination en tant que femme, puisque je suis un garçon. Donc forcément, par contre, c'est là où l'école, les femmes apportent ça. Elles apportent la conscientisation, elles apportent un certain nombre de changements qui, à mon sens, sont inévitables. Ou si, en tout cas, on les évite, eh bien, ça passe forcément par une répression très brutale et très violente. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on ne peut plus accepter, en tout cas, pas en France et nulle part sur la planète, mais je pense qu'en France, on a une responsabilité particulière de faire cela, parce que Mérieux, Philippe, cite un certain nombre de grands pédagogues, c'est que les révolutions éducatives en France passent par des révolutions pédagogiques. C'est pas simplement des acquis sociaux, s'occuper des pauvres, etc. C'est pas que ça. C'est vraiment comment est-ce qu'on enseigne différemment? Pourquoi est-ce qu'on enseigne différemment? Avec qui on enseigne différemment? Et du coup, comment est-ce qu'on forme les enseignants? Et je pense qu'on est au cœur de ça. On est au cœur d'une école française, parce qu'on est au cœur d'une société française qui s'interroge sur ce qu'on dit dans le livre. C'est pourquoi on va à l'école? En deux mots, pourquoi et pourquoi on va à l'école? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que des parents, tous les matins, lèvent leurs mômes qui sont en train de dormir pour leur dire « tu vas aller à l'école parce que c'est pour ton bien ». D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être pour ton bien? Est-ce qu'on lève ses enfants pour aller au lycée pour son bien, pour apprendre un métier, pour exploiter toute sa vie? Ça interroge sur ces questions-là. Est-ce qu'on lève son gamin le matin tôt pour aller faire le SNU? On va en parler. Et ça interroge tout ça. Vous voyez, cette notion de bien et de mal est quelque chose qu'on doit interroger, sur lesquels on doit réfléchir. Et c'est la responsabilité des parents d'élèves que de le faire, parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. C'est-à-dire que quand on leur dit le matin, lève-toi, tu vas aller à l'école, c'est pour ton bien, c'est que les parents ont intégré que l'école, c'est pour leur bien. Donc il y a un truc culturel qui est en train de se jouer, et je pense que 68 a apporté ça. Il s'est apporté l'idée que quand on va, en l'occurrence, à l'université, etc., eh bien, on n'y va pas pour les mêmes raisons après 68 qu'avant 68. On y va pour d'autres raisons. Et on y va notamment pour des raisons que le savoir est quelque chose de fort, quelque chose de nécessaire, quelque chose qu'on doit cultiver, et que les universitaires ont la responsabilité de produire une masse de connaissances et de savoir, de savoir et de savoir-faire, qui derrière doivent s'inculquer dans la société. Et ce que je regrette post-68, c'est que tous ceux qui étaient les chantres de cette révolution culturelle sont devenus les principaux chiens de garde de la société actuelle, qui est une société de domination. Je pense que ce retour de bâton est terrible, parce que ce sont précisément ces gens-là qui ont permis à des gens comme moi de devenir ce qu'on est, et finalement, arriver à des postes de pouvoir, ils ont complètement retourné leur veste.
Mais enfin la majorité.
En tout cas, pour cela, il y en a qui ne le font pas, vous avez raison, mais ceux-là, ils sont dans mon bouquin. C'est par exemple Philippe Mérieux, c'est par exemple aussi Bernard Stiegler, qui sont des héritiers de tout ça, et qui finalement ont continué à œuvrer et à lutter pour une école qui émancipe, une école qui affranchisse et qui soit faite pour les enfants, parce qu'on oublie souvent que s'il y a des écoles, c'est d'abord parce qu'il y a des enfants.
Alors Rodrigo Arenas, justement dans votre livre « Dessine-moi un avenir », j'ai retrouvé presque les demandes de 68. C'est ça qui était extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est 50 ans après, Et ce qu'on demande contre l'autoritarisme, contre tout ça, mais c'était les demandes de 68 qui n'ont pas abouti. Alors, il y a une phrase que j'ai relevée qui est intéressante. Vous dites, si la génération hippie, alors bon, on peut considérer, voulait changer le monde dans les années 1960-1970, c'est-à-dire que bon, c'était dans le monde, hein, en 68, c'était pas qu'en France. Hein. 50 ans plus tard, il ne s'agit plus de changer le monde, mais de le sauver. Mmh. Alors, l'école doit être en partie prenante pour empêcher le naufrage de la société. Donc, mmh. l'école joue un rôle primordial, si on peut dire.
Ouais. Bah, par exemple, j'essaie d'être un peu concret dans tout ça, mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'effondrement. Alors, c'est quelque chose que les écologistes portent depuis des dizaines d'années, y compris en 68, puisqu'ils étaient déjà là. La question, c'est de quel effondrement on parle. Est-ce qu'on est sur un effondrement comme une météorite qui va tomber sur la Terre et tous aux abris, et on va dans le survivalisme dans lequel on s'organise pour survivre avec quelques-uns face à l'adversité du monde, et l'adversité d'ailleurs des autres aussi. Ou alors, est-ce que c'est un effondrement comme celui qu'on a pu vivre, je ne sais pas, en Amérique du Sud, au Mexique, quand les conquistadors espagnols arrivent, qu'il y a une civilisation qui s'effondre parce que le système de croyance s'effondre, et qu'à la fin, ça fait les plus grandes cités du monde de l'époque, comme Tikal ou autres, etc., qui sont sous la jungle, et on les oublie jusqu'à ce qu'on les redécouvre. Donc, vous voyez, c'est cette question de l'effondrement qui, à mon avis, on est dedans. Il y a des sorties. Il y a des sorties pour ça. Le truc, c'est est-ce qu'on va sur un radeau de la Mésude où il n'y a que quelques-uns qui vont s'en sortir, ou est-ce qu'on essaie de s'en sortir collectivement? Et moi, je pense qu'il n'y a que l'école qui permet ça. Parce que la particularité de l'école, c'est qu'on y va tous. Donc, inévitablement, si on y va tous, c'est là où on peut précisément éduquer les enfants pour affronter collectivement un monde qui doit être un monde d'intérêt général, un monde de solidarité, un monde de coopération. Et l'école n'apprend pas ça. L'école de la République, elle est fondée sur des principes, qui est le principe de l'élitisme républicain, donc ça concerne que quelques-uns, avec une méthode qui s'appelle la méritocratie républicaine, donc il faut mériter, et avec un coût, qui est le coup que tout le monde n'y est pas. Donc si on n'est pas, on peut arriver à un monde de type soleil vert, c'est-à-dire une école qui... En fait, l'école française accepte des castes dans lesquelles on détecte quelques gamins qui, dans les banlieues ou chez les pauvres ou dans la ruralité, pour dire, celui-là, c'est un bon élève, donc on va l'aider, on va le faire monter, c'est la discrimination positive, etc. Mais vous savez, pour un gamin qui est là-dedans, il y en a des centaines et centaines qui n'y sont pas. Donc on est en train de construire cette société de castes dans laquelle on accepte l'idée que ceux qui sont tout en haut, parce qu'on est là-dedans aussi, eh ben, ils le méritent. Sauf qu'on se rend compte que d'abord, c'est pas vrai, parce que la majorité de ceux qui sont là-dedans, ils viennent pas de la pauvreté, ils viennent parce qu'ils sont bien nés. On est encore dans cette forme de représentation de l'héritage. Et ensuite, il y a les auxiliaires du pouvoir. On parlait des anciennes 68 qui sont les chiens de garde du monde actuel. Et puis tous ceux qui l'acceptent aussi inconsciemment parce qu'on les a éduqués à ça. Donc voilà, c'est aujourd'hui l'école, comment est-ce qu'elle prépare à sortir de cette société-là, à sortir de cette école-là pour faire une école de coopération. Et il y a que l'école pour ça.
Alors, Rodrigo Arenas, vous êtes quand même assez violent dans votre livre « Dessine-moi un avenir ». On parle de non-violence, mais enfin bon...
C'est pas moi qui suis violent, c'est la réalité.
Un titre violent. « L'école, prison des corps et des cœurs. Un univers carcéral. Ouais. Un instrument de dressage.
Ouais.
Un système d'éducation aux normes. L'autoritarisme, le système de notation. » Alors bien sûr, n'en parlons pas, ça c'est ce qu'on avait essayé d'abolir en 68. Ça n'a pas marché, c'est pire qu'avant, avec Parcoursup et tout ce qu'on reste. Bon, la promesse républicaine de l'égalité des chances cache en fait l'arnaque désespérante d'une sélection sociale qui ne dit pas son nom, c'est ce que vous venez de nous expliquer.
Ouais.
Alors, on va écouter une chanson d'une chanteuse qui utilise le rap pour dire donner ses... et que vous citez dans le livre, Kenny Arcana. Alors, on va écouter cette chanson de Kenny Arcana qui a pour titre « Le syndrome de l'exclu ».
Qui est argentine d'origine. Comme quoi l'argent de l'Amérique du Sud, ça produit des choses.
Elle est d'Argentine.
Oui.
Et il paraît qu'elle est repartie en Argentine, là, récemment.
Syndrome de l'exclu, l'impression l'impression de pas être à ma place. Mal jugé, mal vu depuis l'époque d'aller en classe. Des gaines de délinquantes et je pue la zone à trois bornes. L'impression d'être ziotée même quand y'a des gars à bâbord. Ils nous prennent pour des primates, ça met sur les nerfs. J'ai pas les mots, je m'exprime à l'écran, j'en ai plus, je m'énerve. Ouais, je sais, c'est nul, ça m'a causé des torts. Mais j'ai pas la patience de ceux qui sont restés à l'école. L'impression de déranger par ma simple présence. Quand je suis loin du quartier, de mes gens, je déstabilise, attise la vigilance à faire flipper les mamies et faire stresser les vigiles. Je ressens la méfiance de l'autre comme un coup bas. Je paranoïe de sa parano et je me sens coupable. Depuis que je suis môme, j'en ai ras-le-bol. Je m'auto-exclus car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je sers plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Tout leur infantil sentiment d'exclusion. Alors je foutais bordel quand j'étais petite. Aucun respect pour la complaisance, ni celle des petits ni celle des grands. À force d'être vu comme le vilain petit canard, ça te fait pousser les dents. Sentir la crainte c'est blessant. Et petite ça m'a blessé. Alors tu deviens ce qu'ils dessinent dans leurs clichés. Une marginale qu'en a plus rien à pisser. Une sauvage au royaume d'une peur trop civilisée. Tu sais, le syndrome est profond quand tu rentres pas dans leur format. Et que l'injustice est comme normal. Faut oser sinon qui est mort, man, que chacun de nous porte l'âme de qui il est la vérité qu'on proclame. Prison des stéréotypes, je suis coupable avec ma tête de craps. Allez-vous-en avant que je pète un câble. Y'a que des figures hypocrites dans vos symboles. Laissez-moi dans mon coin, car de l'exclu, j'ai le syndrome.
J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu. Putain, je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Pourquoi je me sens coupable si un vol dans l'assemblée?
C'est le syndrome de l'exclu.
Pourquoi la vendeuse me regarde et les vigiles commencent à trembler?
Le syndrome de l'exclu.
Pourquoi ceux qui me regardent de haut ne me regardent pas dans les yeux? Pourquoi les flics me tutoient? Pourquoi les bourges sont mal à l'aise? Pourquoi je me sens jugé si je bouge de ma zone? Victime de leurs clichés dont leurs médias raffolent.
Le syndrome de l'exclu
qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis. Loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir.
Exclu de leur monde,
j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire.
Le syndrome de l'exclu
qui m'a poussé à me battre, à être qui je suis. Loin de leurs critères à deux balles, à m'en sortir par moi-même, à fuir de l'abattoir.
Exclu de leur monde,
j'accomplis ce qu'ils ne veulent pas croire.
Le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures. Catégorie tête dure et un manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de lèche-cul qui assassine les vertus.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Rodrigo Arenas et de Nathalie Laville. Alors, nous parlons actuellement beaucoup de l'école. Nous avons justement évoqué ce livre très intéressant que je vous conseille tous, « Dessine-moi un avenir », qu'on trouve facilement, plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école. Ça ne va pas être facile, hein. Faire rentrer le 21e siècle vers l'école.
Non, on n'a pas le choix, par contre.
Et aujourd'hui, vous dites carrément, Rodrigo Arenas, il faudrait une révolution culturelle. J'ai trouvé ce terme, révolution culturelle. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez décidé comme ça. Alors, ça fait référence à des mouvements très, très importants. On en est là, c'est-à-dire qu'il faudrait tout changer dans l'école.
De mon point de vue, et de Nathalie et d'Edouard, on pense que oui. Après, on... Les gars comme Blanquer, etc., ils pensent que non. Mais ça, c'est ça aussi qui fait la richesse de l'école, c'est que...
Blanquer, n'en parlons plus, il n'est plus là. Maintenant, il a trouvé
en fait,
une planque.
En fait, il est encore hyper présent, parce que... je ne suis pas là pour dire du mal de Pape Ndiaye, ce n'est pas le problème, mais ce qui se met en place à l'école, c'est l'héritage de Blanquer, on est encore dedans. Les réformes qui sont en train de se mettre en place, c'est ce qui a été esquissé et théorisé aussi, parce que c'est pas juste des réformes techniques qu'il a fait, Blanquer. Il a amené vraiment une vision très particulière de l'école. On s'est affronté violemment d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, que ce soit la laïcité ou autre. Mais donc là, aujourd'hui, on est en train de dérouler ce qui est en train de se mettre en place, même sur la revalorisation des salaires des profs qui est indécente en France. On parle de 2000 balles, mais c'est pas sérieux tout ça. On se moque des gens avec ça. Et on se moque pas que des enseignants. On se moque de la société. Parce que la France, on parlait tout à l'heure de la question de la pédagogie, etc. Elle a ceci d'original, c'est qu'elle a bien traité ses enseignants. Parce qu'on a toujours considéré, c'est l'héritage de Victor Hugo, c'est tout ça, c'est qu'on a toujours considéré que les enseignants étaient ce que nous on appelle les bergers de lettres, qui citation d'Heidegger en fait, dans tout ça, c'est-à-dire qu'on a toujours considéré que les enseignants, l'école permettait aux enfants de s'émanciper et d'être des citoyens dignes de ce nom au sens révolutionnaire du terme. Et là, on voit bien que... Bah, on est en train de défoncer les profs, quoi. C'est ça la réalité. Donc, vous voyez, on est dans ce truc-là. Donc la revalorisation de Papendiaï, etc., c'est Blanquer qui l'a obtenu. Il a obtenu des clopinettes, mais c'est pas Papendiaï. Donc, vous voyez, moi, je suis toujours pour rendre à César ce qui est à César, mais aussi lui retirer ce qui lui appartient pas. Et en l'occurrence, aujourd'hui, Papendiaï n'est pas le mec gentil qu'on essaye de peindre, etc., avec tout un inconscient en plus de ce qu'il porte à travers ses travaux, notamment sur la question des Noirs afro-américains. C'est-à-dire, il y a plein de sujets qui pourraient plaire à la gauche, mais c'est pas le sujet, là. Aujourd'hui, il est ministre. Il est ministre de l'Éducation. Il est plus chercheur. Donc moi aujourd'hui je regarde l'homme politique, et ce que je regarde sur l'homme politique, c'est que c'est le continuateur de Blanquer, et que la gauche en l'occurrence a tort de le ménager, parce qu'il n'y a rien à ménager, parce que derrière c'est les gamins qui sont en train de trinquer. Donc voilà, moi je suis un peu là-dessus, et puis je pense que oui, il faut une révolution culturelle, mais elle nous appartient celle-là, elle appartient à personne d'autre.
Alors, Rodrigo Arenas, donc cette révolution, ben, on va la faire. Hein.
En tout cas, on va s'y employer. Ouais.
Il faut s'y mettre. Nathalie, dans le livre, on dit qu'il faut introduire la philosophie dès la maternelle. La philosophie, c'est important parce que l'histoire et la philosophie, en général, c'est ce qu'on supprime dans toutes les dictatures. Dès qu'un dictateur arrive, il commence à supprimer ça. La philosophie à l'école maternelle, en fait, pour les tout-petits, c'est possible ? Vous qui avez été enseignante ? Vous n'avez peut-être pas enseigné la philosophie.
Non seulement pas la philosophie et pas aux tout-petits. Mais ça se fait. Il y a des écoles, en fait, maternelles et primaires, où on fait une initiation à la philosophie, et où on apprend... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que, déjà, on apprend l'esprit critique aux enfants. On leur apprend à réfléchir, à questionner. C'est à ça que ça va servir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des problématiques, par exemple, des violences faites aux femmes, des inégalités, pour pouvoir agir dessus, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir analyser, il faut pouvoir avoir un esprit critique. Et ça s'apprend. C'est pas, on ne naît pas avec des idées, les bonnes idées, et tout ça se construit. Et pour que ça se fasse, il faut l'apprendre à l'école. Et effectivement, ça peut se faire dès la maternelle. Ça veut dire qu'on n'apprend pas la même chose, évidemment. On ne va pas étudier des textes de Kant à la maternelle, c'est pas le sujet. Hein. Mais nous, on pense que d'ailleurs, ça doit aussi se faire avec le droit. Puisque, effectivement, ce qu'on se dit, c'est qu'on doit tous connaître un petit peu des rudiments de droit. Et pour respecter la loi, il faut la connaître. Et pour savoir que par exemple, on n'a pas le droit de commettre des actes racistes, par exemple, il faut connaître la loi, il faut connaître les sanctions, et puis il faut comprendre aussi pourquoi on n'a pas le droit.
Donc, alors, c'est effectivement, Nathalie Laville, un chapitre intéressant, justement, sur le droit. Parce que là, je vois le droit d'être soigné, d'être protégé, le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, d'avoir des conditions de vie décentes, de jouer, d'avoir des loisirs, le droit de la liberté. Puis alors, un droit qui nous tient à cœur, nous, les pacifistes, le droit de ne pas faire la guerre, ni de la subir. Bon, alors là, nous, on est tout à fait d'accord. Hein. Notre pays est signataire des droits de l'enfant. Les enfants doivent pouvoir eux-mêmes saisir la justice pour la faire respecter. Nul besoin d'être un majeur ou d'être accompagné par un adulte. Alors ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, les enfants, les jeunes pourraient s'exprimer directement. C'est ce que vous souhaiteriez, Rodrigo Arenas ?
Moi, ils le font déjà, de toute façon.
Dans la rue.
On parlait de Julien tout à l'heure. Moi, Julien de l'ON, je l'ai connu quand il était syndicaliste avec d'autres lycéens. Je pense qu'on a On a essayé de soutenir, d'ailleurs, en tant qu'adulte, en tant que parent, leur mouvement, chaque fois qu'ils en faisaient un. Mais oui, vous avez raison, c'est souvent sous l'angle de la contestation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut l'institutionnaliser. D'ailleurs, il y a plein de communes aujourd'hui, de départements ou de régions, qui font des sortes de conseils des mômes. Donc, conseil municipal des enfants, des collégiens dans les départements, parce que, vous savez, en France, l'école maternelle primaire, c'est la compétence des mairies, les collèges, c'est le département, et les lycées, c'est les régions. Donc, chacun prend ses gamins dans un découpement qui, à mon avis, un enfant, il est fond de 0 à 18. Donc, il y a aucune raison. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, le fonctionnement institutionnel, il découpe aussi les enfants. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on permet à ces enfants, à ces jeunes, de parler par eux-mêmes sans la présence tutélaire d'un adulte, d'arrêter de les infantiliser, même si ça reste des enfants. C'est-à-dire, un enfant aujourd'hui, moi j'ai bossé beaucoup en centre de loisirs, ils sont, comme le disait Nathalie, sur la philosophie et le droit, ils sont capables de produire des idées, ils sont capables de produire des propositions, ils sont capables en fait d'être acteurs et citoyens. La question c'est que, dès lors qu'ils remettent en question l'ordre établi des adultes, alors on les infantilise et on dit « mais bon, c'est pas possible votre truc là ». Mais de quoi on est en train de parler? On est en train de parler, par exemple, des gamins qui veulent pouvoir aller aux toilettes sans que ça pue, sans qu'il n'y ait pas de porte, sans etc. Enfin, en gros, c'est des gamins qui demandent juste de pouvoir satisfaire à leurs besoins élémentaires, qui est celui d'aller aux toilettes. Bon, vous savez, les mômes, ils font ça, ils n'ont pas besoin des adultes pour savoir que les toilettes doivent être un lieu dans lequel la dignité doit s'exprimer. Donc, j'ai envie de dire, c'est les adultes qui sont en retard sur les gamins. Et c'est ça le problème qu'on a. Donc, les gamins, ils gueulent. Les gamins, ils bloquent les écoles, ils bloquent des collèges, ils bloquent des lycées. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant 5 ans? On leur a envoyé les flics. On les a tabassés. À Mantes-la-Jolie, on leur a mis à genoux les mains sur la tête. J'en ai eu d'autres où les CRS ont chargé avec la police, ils ont rembalancé les lacrymogènes, etc. Moi, je me rappelle, j'étais à la FCP en responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé que les parents d'élèves accompagnent leurs enfants. Même si les enfants, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, ou on peut dire, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils prononcent, mais notre rôle de parents, c'est de protéger. Et quand on protège, eh ben on est à leur côté. Mais pas pour décider à leur place. C'est juste pour s'assurer que dans leur expression citoyenne, parce que ça peut se produire aussi comme ça, la France s'est construite là-dessus. La France de la République, elle ne s'est pas construite dans un truc pacifié. Hein. On a coupé les têtes quand même. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les têtes, mais c'est-à-dire que si on se rend compte que l'État organisé, eh bien, il ne répond pas à la défense, à l'intégrité physique et morale des enfants, alors le rôle d'un parent, le rôle d'un adulte, c'est d'être à leur côté, de les accompagner et de leur permettre de faire leur chemin. Et je pense que plutôt de le faire dans la rue parce qu'on ne les écoute pas, aujourd'hui, l'école doit être le lieu de la démocratie. Il doit être le lieu de l'expression, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils racontent, parce qu'il y a toujours un petit peu de vérité. Et les gamins, ils sont justement, notamment la jeunesse, moi j'en ai fait partie, c'est leur rôle d'en mettre en question l'ordre établi, c'est leur rôle de dire à leurs parents ce que tu me dis en fait c'est de la merde, c'est leur rôle de dire à Macron ou à l'autre, tu sais ce que t'es en train de me dire, en fait t'es en train de me violenter, quand t'es en train de mettre en place des réformes ou des programmes ou des lois qui clairement sont en train de défoncer la planète, donc c'est-à-dire mon patrimoine, oui c'est la moindre des choses qu'ils disent, excuse-moi gars mais t'es en train de me faire du mal. T'es en train de faire du mal, pas seulement à moi, mais à toute une génération. Donc si on ne permet pas à ces jeunes de s'exprimer dans leur lieu, dans leur habitat, qui est l'école, dans lequel ils peuvent s'affranchir de la tutelle des adultes, mais ils vont le faire où? Ils font dans la rue. Et quand ils font dans la rue, il y a des débordements. Et quand il y a des débordements, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les flics, on leur pète la gueule. Moi je pense que c'est pas le rôle des adultes que de faire ça, et qu'on décrédibilise les parents, les adultes, etc., quand ils agissent de cette façon-là, avec celles et ceux qui sont juste en train de dire « Hey gars, vous êtes en train de foutre en l'air le monde !» C'est pas possible. C'est pas possible que mon camarade de classe, là je suis vachement sur les hôtels sociaux, les gens qui dorment dans les hôtels sociaux, etc. C'est ce truc qui est indécent. C'est normal qu'il y ait des lycéens qui disent hey, « Eh, tu sais quoi, en fait, c'est pas normal que mon camarade de classe, là, qui est dans un hôtel social, que t'as balancé à Tataouine parce que c'est moins cher ou parce que le 115 n'a pas les moyens de faire son travail, qui va à l'école avec moi et dorme dans une bagnole pour être à l'heure le matin. » C'est ça la réalité, y compris à Paris. Donc vous voyez, les mômes, ils disent ça. Ils expriment le monde tel qu'il est. Ça fait pas plaisir. On n'est pas là pour faire semblant. On n'est pas là pour dire t'inquiète pas, mon fils, ça va passer. Comme après qu'on leur met une fessée, t'inquiète pas, t'as mal. T'inquiète pas, ça va passer. Non, ça passe pas. Parce qu'une fessée, comme une action policière ou comme toutes les violences qu'on exerce sur la jeunesse, ça marque une vie. Ça marque une vie, ça marque une génération. Et aujourd'hui, la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que l'État, la France, elle a une action violente avec ses enfants. Où la seule réponse qu'elle a, notamment avec le SNU et tout ça, c'est on leur apprend la domination, on leur apprend le l'obéissance à une hiérarchie autoproclamée et certainement pas de leur apprendre à avoir des actions qui les intègrent dans un monde complexe et qui leur permettent d'agir dessus avec la raison, avec un esprit critique, avec une responsabilité aussi, parce que, enfin, moi je sais pas, mais je trouve que les gamins, ils sont vachement plus responsables que nous, hein. Vraiment plus.
Alors Rodrigo Arenas, là, on est content de vous entendre défendre la jeunesse, parce que nous allons aussi la défendre dans le service national.
On l'est plus tellement, nous.
On va en reparler tout à l'heure, mais je voudrais qu'on écoute une autre chanson. Une autre chanson, une petite pause musicale avec une chanteuse qui, elle, est des années 1970. Donc, à l'époque, déjà, on avait des idées. Et cette chanson de Anne Christ s'appelle « L'étouffoir ».
Les rues n'ont pas besoin de fenêtres pour plonger sur nos cours. Et nos enfants n'ont pas besoin de naître, il manque déjà d'amour. En bleu, en bloc, en mauve, les maisons de ma ville s'ouvrent dedans les crevasses des rues faciles qui joignent nulle part. En glauque, en perdu, en roque du dedans, se perdent les voix de ceux qui seraient vivants sans même le savoir. Elles ont des cheveux en verticale qui traînent, femmes qui communiquent en bannière de peine, je regarde leurs yeux. Qui sont par des pareils, disent les mêmes choses du fond d'un étang froid d'ennui qui se repose, qui règne comme un dieu. Les rues n'ont pas besoin de fenêtres pour plonger sur nos cours. Et nos enfants n'ont pas besoin de naître pour manquer autant d'amour. Ils parlent de leur dimancherie, de leur samedi, sous des gerbes d'alcool, j'espère seront enfouis ces jeunes assassins. Compris dans une bulle bleue de solitude, leurs yeux ouverts géants disent cette habitude de n'être presque rien. Nos yeux se répondaient écartés du rimmel, de nos tasses enfermées dans quatre mains très belles, un graphisme enfumé. Accusait le matin fatigué de l'hiver, la nuit où l'on s'était trompé de partenaire, en plus on s'en foutait. Les rues n'ont pas besoin de fenêtres pour plonger sur nos cours. Et nos enfants n'ont pas besoin de naître, il manque déjà d'amour. Rouge au fond de la cave, une race prostrée rêve par unité d'un ciel à inventer sur le bord d'un départ. Trois longues femmes pures, trois lianes de beauté se sont pendues au nuage qui a tué ces trois flacons d'espoir. Debout les bras en croix, ils fixent immuables son ombre crucifiée, calquée par un ciel stable, il ne doit pas savoir. Debout sa tête blême, contraint à l'ombre, qu'il fixe son destin, qu'il gagnera sous peu la mort et celle à voir. Les rues n'ont pas besoin de fenêtres pour plonger sur nos cours. Et nos enfants n'ont pas besoin de naître, il manque déjà d'amour. Oh mon amour, ici ce sont des pervertis, la nuit était si longue, mais j'ai jamais menti, on devrait devenir comme ces arbres citrusifères accrochés, que la tourmente ne peut rien leur rapprocher d'autre que de sourire. Ici ce sont des dépravés, il faut s'enfuir des prisons de la liberté qui font mourir sans puissance et sans rêve. Oh mon amour, l'ennui gèle dedans mes os, dedans mes nerfs stridents serrés comme un réseau, et pour s'enfuir faudrait qu'on crève. Les rues n'ont pas besoin de fenêtres pour plonger sur nos cours. Et nos enfants n'ont pas besoin de naître pour manquer autant d'amour. Viens, allons construire nos terres promises. Yeah.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Rodrigo Arenas et de Nathalie Laville, qui ont écrit un livre très intéressant dont nous venons de parler, qui s'appelle « Dessine-moi un avenir ». Alors je vous le conseille, ceux qui veulent vraiment s'engager pour changer cette école. Vous venez d'entendre une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Anne Christ. Une chanteuse, Ouest-France a publié le 5 décembre 2022 un titre « La chanteuse Anne Christ n'a pas perdu sa voix ». Alors là, bien sûr, c'est la voix de 1970. Et elle vient d'être redécouverte, si on peut dire, par Jean-Luc Porquet, notre ami journaliste du Canard Enchaîné, et qui la compare justement à Colette Mani. Et ils viennent de sortir un coffret de 5 albums, 38 chansons, des inédits, avec des illustrations de M. Wozniak. Donc, vous voyez, Wozniak.
On connaît bien.
Maintenant, bon, alors, il va falloir quand même un peu parler du Service National Universel, Rodrigo Arenas, parce que j'avais lu en 1919, c'est-à-dire quand ça se mettait en place, on sait que, bon, on ne va pas rappeler parce qu'on a déjà fait des émissions là-dessus, nous, à Radio Libertaire, mais vous aviez écrit un article avec Carla Dugo, justement, qui s'appelait « SNU, garde à vous, fixe ». Et j'ai relevé une phrase, il y en a d'autres, hein, « Le SNU et la réintroduction au pas de loi et à grand renfort de communication du service militaire. » Bon, à l'époque, tout le monde ne voyait pas les dangers de ce SNU, puisque ça est allé, même si ça a été conçu par un général, il ne voyait pas à quoi ça menait. Mais nous, à l'Union Pacifiste, on avait déjà senti la chose. Alors, quand on a lu votre article, on était tout à fait d'accord là-dessus. Vous pensez vraiment que c'est un danger, Rodrigo Arenas, pour les jeunes, le service national universel ?
Ben, moi, je pense que oui. Après, d'autres pensent le contraire. Mais je pense que ceux qui pensent le contraire, notamment, c'est ceux qui ont abandonné, en fait. C'est-à-dire que on est des héritiers d'une école qui apprend l'émancipation, qui apprend l'esprit critique, et surtout qui cultive la paix. On est quand même les héritiers d'une école post-45 qui fait tout, qui met tout en œuvre, y compris l'Europe, pour faire en sorte que les gamins ils puissent exister sans avoir peur de tuer ou de se faire tuer pour une cause en plus qui n'est pas forcément la leur. Donc aujourd'hui, on renonce à ça avec le SNU. C'est-à-dire qu'il y a une telle crise d'éducation, telle crise de l'école, qu'on fait rentrer l'armée. On fait rentrer quoi ? Quand on dit l'armée, c'est pas question, c'est pas de dire que les soldats sont des salauds, etc. C'est pas le problème. D'ailleurs, on a besoin d'eux parfois. Quand je pense à l'ex-Yougoslavie, je pense à tout ça. Mais la question, c'est que c'est pas l'école le lieu. On ne peut pas mettre en place dans un cadre éducatif tel que celui de l'école française, post-45, encore une fois. Un rapport à l'apprentissage de la guerre, un rapport à l'apprentissage de la soumission, un rapport à l'apprentissage du respect de la hiérarchie, un rapport à l'apprentissage que d'apprendre à manier des armes, d'être ébahi devant des avions de chasse, de voir des chars d'assaut, etc. C'est trop bien. Non, en fait, c'est pas bien. En fait, c'est pas bien parce que les armes, c'est fait pour tuer. C'est pas juste, c'est pour décorer. Donc, c'est pas la place de l'école que ça. Après, s'il y a des jeunes qui veulent devenir militaires, je dis, oh, bon, allez-y, faites votre life, mais c'est pas le problème. Mais c'est pas le lieu de l'école. Donc, quand l'éducation nationale, quand le ministère de l'éducation nationale, qui est un ministère de paix, fait rentrer dans un cadre éducatif ces notions-là, elle contrevient à sa mission. Elle contrevient à son rôle, y compris dans la période historique dans laquelle on est. Et c'est pas que dans le quinquennat, c'est bien avant que ça a commencé. Ça avait commencé en 2005 avec Sarkozy, et ça a mis en place avec...
Et même avant, avec Chevènement.
Avec Chevènement, vous avez raison. Donc c'est quelque chose qui remonte à loin, cette idée-là de l'ordre républicain militaire, etc., qui, à mon sens, est un renoncement. Mais ça s'est mis en place aussi sous Hollande, avec les classes de défense, qui ne concernent pas grand monde, en plus. Hein. Ça concerne, je sais pas, 15 000 mômes. C'est l'équivalent du déjeuner à 1 euro en fait en termes de massification. Ça concerne pas grand monde. Par contre, ça fait les unes de la presse. Ça fait, on a l'impression que tout à coup, l'école va s'ouvrir et que tous les enfants vont être heureux de marcher au pas, vont être heureux d'apprendre le rapport au chef. Le rapport, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça à l'école parce que quand je dis que l'école est lieu de l'émancipation, c'est justement l'école dans c'est le lieu dans lequel on apprend à remettre en question l'ordre établi. Et on le fait avec la science, avec la rationalité, avec l'esprit critique, avec l'éducation. Et là, on fait rentrer un corps de l'État, qui est l'armée en l'occurrence, ou la police, etc., dans lequel on apprend tout le contraire. On apprend à respecter un ordre. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question un ordre. À l'armée, on ne remet pas en question un ordre, même quand l'ordre est débile. On est formé à ça, avec son expression suprême, avec la bombe atomique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner à des enfants que faire la guerre, c'est quelque chose de banal. Non, ce n'est pas banal. C'est pas banal de tuer quelqu'un. Nathalie en parlait avec beaucoup d'émotion tout à l'heure sur le fait que son papa avait très certainement tué des Algériens pendant la guerre d'Algérie. C'est pas anodin. Donc moi, en tout cas, en tant que parent d'élève, en tant que représentant de fédération à l'époque, je me refuse à ce que l'école soit le lieu de ça. Je me refuse à ça. Parce que précisément, nous sommes les héritiers de Prévert. On en parlait tout à l'heure de Quelle connerie la guerre. On est les héritiers de toute cette approche intellectuelle, idéologique, dans laquelle la guerre n'est pas une option. Elle ne peut être qu'une option que quand on est agressé ou que quand on doit intervenir dans un lieu dans lequel il y a des gens qui se font massacrer et qui n'ont pas les moyens de se défendre. D'ailleurs, c'est le rôle de l'ONU de faire ça. C'est le rôle des casques bleus de faire ça. C'est-à-dire que c'est le lieu d'une délibération. Et donc, à partir de là, l'école ne peut pas être le lieu de ça. Voilà, c'était juste ça et je trouvais ça terrible. Qu'en 2019, en l'occurrence à l'époque, mais ça remontait à Lyon, vous vous rappelez Chevènement, etc., on renonce à ce rôle de l'école, qui est avant lui le rôle d'une éducation et pas le rôle d'une soumission à une autorité tutélaire dans le lieu de la scolarité des enfants, en fait.
Alors, Rodrigo Arenas, nous, justement, à l'Union pacifiste, ouais, avec la Libre Pensée, avec le Syndicat solidaire, avec bien d'autres, nous sommes à pencher sur la question dès, effectivement, 1919 aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu connaissance de votre article. Et là, vous faisiez allusion à quelque chose dont on a pensé tout de suite, nous aussi, c'était l'objection de conscience.
C'est sûr.
Qui existait, qui a été gagnée de haute lutte justement, des militants antimilitaristes. Mais l'objection de conscience ne pouvait pas être appliquée puisqu'il s'agissait simplement de refuser le port des armes. Donc on s'était dit, peut-être qu'on va faire l'objection de conscience des parents. Les parents, puisqu'ils doivent donner l'autorisation, ce sont des mineurs de 15 ans à 17 ans, c'est eux qui donnent leur signature, comme pour aller à la colonie de vacances, pour aller au service national universel. Donc on s'était dit, les parents. Alors vous, qui êtes justement, qui étiez avec les parents, comment ils réagissaient, ces parents, quand vous leur en avez fait parler ?
Y avait un peu... Plusieurs positionnements. Il y avait d'abord les parents qui étaient déjà dans cette idée de on ne sait pas comment faire, donc on va les mettre à l'armée, comme on les met au bagne. Voilà. Il y a un renoncement ou une incapacité aussi à comprendre cette nouvelle jeunesse, etc. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était aussi, ça faisait pas si longtemps que c'était l'époque de. Il y avait tout un débat, notamment au Sénat, sur la question de la fessée. C'est-à-dire qu'on accepte, en fait, des parlementaires acceptaient de mettre une fessée à un gamin, parce que bon, après tout, c'est pas si grave. Ça a tué personne. C'est-à-dire, cette notion de toute une génération qui se reproduit, voilà, génétiquement, y compris pour certains, de dire, après tout, porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ou morale, c'est pas si grave, on s'en est sorti avant eux, il n'y a pas de raison, on en a chié avant eux, ils peuvent en chier aussi. Vous voyez, c'est tout ça aussi, le SNU. C'est-à-dire, c'est cette logique de la claque de Bayrou aussi, où personne s'est ému à l'époque que Bayrou avait mis une gifle à un gamin parce qu'il lui avait mis les mains pour lui piquer son portefeuille. Mais la question, c'est, est-ce qu'on met une gifle à quelqu'un parce qu'il pique son portefeuille ? Attends, gars, t'es une personne politique. Ton rôle, c'est pas de mettre une gifle. C'est de dire, qu'est-ce qui a poussé ce gamin à te faire les poches ? C'est deux choses différentes. Vous voyez, c'est ça, c'est le renoncement. C'est le renoncement à l'action éducative. Et c'est ça aujourd'hui qu'il y avait des parents qui étaient là-dedans. Et d'autres qui, au contraire, suivaient un peu le positionnement qu'on avait à la FCPE, c'est-à-dire de dire non, en fait, c'est pas le lieu de l'école de faire ça, on n'apprend pas à jouer aux petits soldats à l'école, d'autant plus que dans les petites classes, moi je suis d'une génération où on joue pas à la guerre, en fait. C'est pas un jeu, la guerre. C'est pas un jeu. Et quand les gamins jouaient aux cow-boys et machin, etc., en fait, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de tuer les Indiens. C'est pas un jeu. Vous voyez, c'est pas rigolo, en fait. C'est quoi qui est rigolo, en fait, dans tout ça? C'est quoi qui éduque, en fait, à tout ça? Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a des parents qui sont là-dedans aussi. Et donc, t'as raison de le dire. Moi, je faisais partie de ces parents, et on était un certain nombre, d'ailleurs, à dire on peut pas lutter contre un pouvoir établi d'un point de vue institutionnel. Par contre, ce qu'on refuse, c'est qu'on nous retire notre droit de parents de vouloir éduquer nos enfants vers la paix. Donc oui, on demandait à ce que les parents soient autorisés à interdire à ce que leurs enfants aillent, parce qu'ils ne sont pas majeurs, dans le SNU. Voilà. Vous voulez que vos enfants apprennent à jouer à la guerre ? Ok, d'accord. On n'est pas d'accord, mais bon, c'est votre droit. Mais nous, par contre, en tant que parents, nous, on veut avoir le choix de ne pas le faire, comme le choix de faire l'histoire de conscience. Et on est les héritiers de ça. Nous sommes les descendants de tout ça.
Alors, Rodrigo Arenas, vous êtes député, je le rappelle, de la 10e circonscription de Paris. Donc, vous avez maintenant, vous êtes dans la commission culturelle et éducation à l'Assemblée nationale. Oui. Bon, à vous écouter, je pense que vous allez réussir à en convaincre quelques-uns. Maintenant, il y a eu un nouvel...
On a convaincu sur l'uniforme dernièrement, vous voyez, c'est déjà pas mal.
Justement, j'allais y venir parce qu'il y a un élément nouveau qui est la guerre en Ukraine.
Oui.
Alors là, notre président, maintenant, veut redonner le sens je ne sais pas comment il appelait ça, la moralité. Ouais. Il faut qu'il y ait une défense morale. Enfin, on va écouter d'ailleurs ce qui a été dit justement par Mme Sarah El-Haïry, qui est responsable du Service national universel, en novembre 2022 sur Europe 1. Et puis, on va écouter aussi ce que disait M. Macron quand il a pris la parole le 19 décembre sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors, on va écouter ce qu'ils ont dit.
S'estompe, surtout dans la mémoire des jeunes, et avec lui la conscience que le territoire national, un jour, et oui ça peut arriver, pourrait à nouveau être attaqué. La dernière fois c'était il y a 70 ans. Est-ce que la guerre en Ukraine, d'après vous, change la donne, Sarah El-Haïry?
Bien sûr. Aujourd'hui, le retour de la guerre de haute intensité, c'est-à-dire une guerre d'homme à homme qui tue encore des vies sur notre continent, change bien sûr la contemporanéité. C'est-à-dire que oui, maintenant, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui défendent leur pays, un État souverain, qui est l'Ukraine, et qui résistent à une des plus grandes armées qu'on imaginait fortes, la Russie. Ça rappelle aussi que la paix n'est pas un acquis, qu'il faut la défendre, bien sûr, l'enseigner, toujours, mais il faut surtout aller chercher notre héritage, et donc commémorer, renforcer notre force morale, aller renforcer ce qu'on a de plus précieux, eh bien, notre patriotisme, notre communauté nationale.
Alors, il y a le souci chez Emmanuel Macron, il l'avait dit le 13 juillet, ça avait été relevé par plusieurs commentateurs, parce que ce sont des mots qu'emploie volontiers, notamment Thierry Burkhard, notre chef d'état-major des armées. Le président parlait de stimuler les forces morales du pays. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu suranné dans ces mots, mais ils sont intéressants, parce que est-ce que ça témoigne d'une inquiétude, Sarah El-Haïry, de la réaction pour avoir les Français en cas de guerre? En fait, très concrètement, est-ce que le président de la République se demande si les Français réagiraient, comme on l'a vu, les Ukrainiens, avec une forme de sursaut national?
Il faut bien sûr se préparer et toujours apprendre finalement comme devoir le fait de participer à l'effort.
Mais quand on se préoccupe des forces morales, c'est qu'on se demande si on les a ou pas, Sarah El-Haïry.
C'est comment on les partage, comment on les apprend, comment on les diffuse.
Je le disais, vous êtes en charge du service national universel. Alors je rappelle, c'est pour les 15-17 ans. Ça a vocation à remplacer la journée défense et citoyenneté. Alors c'est un peu plus lourd, hein, parce qu'il y a un séjour de cohésion de 15 jours, puis une mission d'intérêt général, puis éventuellement un engagement de 3 mois ou plus. Ce service national universel a vocation à devenir obligatoire. Alors c'est pour quand d'abord? Et puis, est-ce que c'est le retour du service, les armes en moins d'une certaine manière, Sarah El-Haïry?
Ce qui est certain, c'est que le service national universel aujourd'hui répond à ce qui manque du service national de jadis. C'est-à-dire la mixité sociale, le goût de l'effort en commun, la découverte de nos armées, encore plus quand les enjeux de défense sont d'actualité.
Mais vous plaidez, vous, pour rendre ce SNU obligatoire?
Moi, la mission que le président de la République m'a donnée auprès du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, c'est d'aller chercher la généralisation, c'est-à-dire qu'un maximum de jeunes puissent bénéficier.
Vous pensez que c'est bon pour le pays? C'est bon pour les forces morales.
Le service national universel est de fait bon pour les jeunes, pour le pays et pour la France.
L'expérience militaire vous conduit à développer non seulement des expertises, mais aussi des qualités de comportement, de savoir-être précieux. C'est aussi pour cela que les entreprises sont heureuses de recruter d'anciens militaires qui quittent l'uniforme. C'est aussi pour cela que je sais pouvoir compter sur les militaires et sur les anciens militaires pour faire face aux défis de renforcer les forces morales de la nation, en particulier de la jeunesse. Je l'évoquais le 13 juillet dernier, mais cette force morale est sans doute le plus important de tout. J'aurai à cet égard l'occasion de m'exprimer sur notre grand projet de service national universel au début de l'année prochaine.
Alors, nous venons d'entendre Madame Sarah Lahiri, qui maintenant chargée donc du service national universel et rattachée à la fois au ministère de l'Éducation nationale et au ministère des Armées. Mais je rappelle aussi que Madame Sarah Lahiri est colonel dans la gendarmerie. Donc, elle est allée en Suisse et dernièrement, au mois de décembre, et le journal Le Temps suisse a titré « Le service civil suisse est une source d'inspiration pour la France ». Alors bon, on ne va pas expliquer tout ce qui se passe en Suisse, mais on sait que toutes les Suisses sont armés, que tous les Suisses ont des entraînements réguliers tous les 6 mois ou toutes les années pour des entraînements militaires pour pouvoir défendre leur pays au cas où les banques seraient attaquées. Et donc, il faut quand même... le modèle suisse n'est peut-être pas le modèle idéal pour la France. Mais enfin, ça a beaucoup donné des idées à Madame Sarah Lahiri. Et l'État, nous avons, nous, réagi, bien sûr, à ce phénomène que ça va devenir obligatoire. Et l'État serait donc sur le point de budgéter une dépense supplémentaire d'1,5 milliard d'euros chaque année pour obliger les jeunes de 15 à 17 ans de faire le service national universel. Rodrigo Arenas, vous qui êtes dans les secrets de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez entendu parler, peut-être qu'il ne faut pas le dire dans une émission de radio, mais est-ce que justement c'est un sujet dont on parle actuellement dans la commission des affaires culturelles et tout ça?
Non, c'est ça qui est dramatique, c'est que il n'y a que des mecs comme moi pour en parler de tout ça. C'est ça qui est terrible, c'est que il n'y a pas cette vigilance en fait à ces dérives idéologiques, cette ignorance aussi. Enfin, moi, je suis désolé, je sais. Moi, j'ai connu jeune la guerre en Yougoslavie. C'était à la télé. On a connu la guerre en Irak. Enfin, ces gens sont ignorants de ce que c'est qu'un conflit. Enfin, elle a été en Suisse, mais qu'elle aille en Syrie, là. Qu'elle aille au Liban. Qu'elle aille dans ces coins où ça tue pour de vrai, quoi. C'est ça le truc qu'il y a. Donc, moi, je comprends pas ces va-t-en-guerre-là qui sont en train d'expliquer aux Françaises et aux Français. Vous savez, dans pas longtemps, vos gamins, ils vont mourir, en fait. Parce que c'est ça, la guerre. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas venez comme si c'était une colonie de vacances. Les sous-doués font l'armée. Enfin, c'est pas ça, la guerre. La guerre, c'est un truc sérieux. La guerre, il y a des morts. Et les morts, c'est nos enfants. Donc, c'est ça, la réalité. Donc, et en plus, ils jouent petit bras. Parce qu'ils ne sont pas au niveau. Si on doit parler de guerre, parlons sérieusement de guerre. Aujourd'hui, qui fait la guerre? C'est des États comme les États-Unis. C'est la Russie. C'est la Chine. Soit directement, soit personne interposée. Mais y compris, il y a une privatisation de la guerre. Avec la Russie, par exemple, qui embauche des mercenaires, qui interviennent en Afrique, où on s'est fait défoncer en Mali. Parce que c'est la réalité. C'est que l'armée française, elle s'est dégagée d'Afrique. Par ces gens. C'est-à-dire que... La bonne dimension aujourd'hui pour la France, admettons qu'on soit va-t-en-guerre, admettons que ce soit qu'on trouve que c'est trop bien d'aller faire d'aller faire la guerre et tuer des gamins, parce que c'est des gamins dont on parle, hein. Ils ont 17 ans, 17, 18 ans, c'est ceux-là qui meurent. Et ben, la bonne échelle, c'est l'Europe. Ça, la bonne échelle. Parce que c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'on est en train de jouer. La France, il faut être sérieux. De quoi on est en train de parler là? Aujourd'hui, l'armée française, elle a déjà des morts. Moi, je fais des commémorations. Les commémorations qu'on fait, c'est des gens qui sont morts dans les conflits qu'on vient de connaître, là. Et c'est des familles entières qui sont profondément bousculées, qui sont déchirées, parce qu'elles ont des gens qui sont morts dans leur famille. C'est pour de la vraie. C'est pas un jeu où on siffle la fin de la récré et relevez-vous comme si on faisait un truc de réalité à la télé. C'est pas ça, la guerre. Donc, je trouve que ces gens sont des irresponsables. Voilà, je trouve que c'est pas sérieux d'implanter ça. Et surtout, c'est pas sérieux de dire... vous savez, on va les obliger, et puis en plus j'ai une rallonge. C'est trop bien, j'ai 1,5 milliard d'euros en plus, alors que l'école, elle est en train de crever. C'est ça la réalité. Donc c'est-à-dire que ce milliard d'euros, elle parle de mixité sociale, mais de quoi elle est en train de parler? Moi, mes gamins, ils sont scolarisés en banlieue, en REP. Ils sont dans la mixité. Moi, je suis député de Paris, mes gamins, ils sont en banlieue. Mais moi, la mixité, mais mes gamins, ils ont tous leurs camarades de classe, ils ont besoin de ce pognon.
pour faire de la vraie mixité sociale à l'école. Donc, c'est indécent. C'est indécent. Et c'est, non seulement c'est indécent, ça montre une incompétence aussi de la compréhension de ce qu'est l'exercice militaire, de ce qu'est l'exercice... Et en plus, c'est pas au niveau de ce que réclame l'armée. L'armée ne réclame pas ça. L'armée française ne réclame pas ça. Elle réclame pas que de... D'ailleurs, elle ne sait pas faire, ce n'est pas son rôle. Son rôle, ce n'est pas d'encadrer des mômes comme s'ils faisaient des colonies ou des stages d'initiation. Ce n'est pas son rôle à l'armée. L'armée, elle est là pour faire la guerre. Donc concrètement, soit ils veulent vraiment que l'armée française soit dotée d'un arsenal militaire et de soldats capables de faire la guerre à l'autre bout de la planète, parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Soit on se dit que l'armée française doit assurer le contrôle aux frontières parce qu'on a un envahisseur putatif qui va arriver dans un an ou dans deux ans ou on sait pas quand, parce qu'il faut évidemment jouer sur les peurs, parce qu'elle joue sur les peurs, c'est profondément dégueulasse de jouer sur les peurs des gens là-dessus. Eh bien, vous savez quoi, on parle pas d'un milliard et demi d'euros là. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Parce que rien qu'un porte-avions, déjà, ça coûte des milliards d'euros. Donc c'est
alors,
pas sérieux.
Rodrigo Arenas, oui. Excusez-moi, je vais être obligé de vous interrompre.
Ouais, non, j'en prie. Hein.
Émission. Vous allez être obligé de revenir dans notre émission.
Avec
parce
plaisir.
Que je vois que, au niveau de l'armée, vous défendez les choses comme nous sommes. Et j'ai vu aussi que le 14 décembre, dans la commission des affaires culturelles, vous aviez été obligé d'intervenir contre une résolution du Rassemblement national qui voulait réinstituer l'uniforme à l'école.
Ouais.
Bon, je vois que vous jouez un rôle dans l'Assemblée nationale.
Moi, je suis pas tout seul. Hein.
On va vous remercier pour votre action.
C'est moi qui vous remercie.
On va remercier aussi Nathalie Laville, on va remercier aussi Pedro qui nous a assuré la technique, et puis on va terminer peut-être par une chanson de Jean Ferrat, une chanson de Jean Ferrat qui parle de quelqu'un que vous connaissez bien. Bon, c'est le générique de fin.
C'est le chanteur de ma maman, donc c'est très bien.
On est obligé de se séparer, et je pense qu'on va se revoir. Alors, et on va laisser ensuite la place à nos amis qui nous suivent et qui sont, disons, pour la prochaine émission. On va écouter donc Jean Ferrat.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux et l'injustice rebelle Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire.
Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant, pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama.
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Comment croire, comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Avec tes forêts de hêtres, tes myrtes méridionaux, ô mon pays de salpêtre, d'arsenic et de guano, mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis, verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees.
comment croire aux pas pesants des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda. Et présente ensemble, invisible, mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire, et dans la foule chantant. Comment croire, aux pas pesants des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire, comment croire, aux pas pesants des soldats,
quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.